Je puis tout par celui qui me fortifie. Tendre Père, nous te bénissons pour ta parole. Te remercions pour cette joie que le Saint-Esprit communique à nos cœurs. Et je te prie que tu nous donnes cette joie, la joie profonde du Saint-Esprit, et que nous puissions apprendre à garder cette joie pour la joie de Jésus, notre Maître, et aussi pour notre bonheur. Amen. Frères et sœurs, je pense que vous connaissez bien ce verset de Néhémie 8 au verset 10 qui dit « La joie de l'Éternel est ma force. » La joie de l'Éternel est notre force. Et en même temps, quand on dit ça, on a l'impression en fait que à côté, les soucis sont notre faiblesse. Nos soucis, quelque part, nous sucent. Ils nous sucent littéralement. On ne peut pas être joyeux si on est accablé de soucis, si on est rempli de soucis, rempli de craintes. Et en tout cas, dans Philippiens 4 que nous avons ici, Dieu nous donne quelque part le secret pour être joyeux et rester dans la joie. Et dans les versets 2 à 9, on trouve là quatre recommandations pour vaincre l'inquiétude. Et puis dans les versets 10 à 13, on a un principe de vie que Dieu nous recommande. Donc regardons d'abord donc les recommandations. Les recommandations, et tout d'abord, dans ce passage, il nous est dit, première recommandation, c'est un impératif même, réjouissez-vous toujours. Et il est dit plus précisément, réjouissez-vous de ce que vous avez la vie éternelle. Au verset 2, on voit que l'apôtre Paul dit, donc j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. On ne sait pas trop, en fait, qui sont ces deux dames, Évodie et Saint-Tiche. Qu'est-ce qu'elles faisaient vraiment? Quel était le problème qui les opposait? En fait, c'est des problèmes assez courants, comme par exemple deux dames dans l'église qui veulent nettoyer l'église de deux manières différentes. L'une qui veut passer l'aspirateur avant, et l'autre qui dit qu'il préfère plutôt passer la serpillière ou le torchon. Enfin, c'est plutôt le code français. Moi, c'est ces petites bêtises, en fait, qui nous divisent et qui nous pourrissent la vie. Probablement, ces deux dames avaient un problème de cet ordre-là. Et en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que l'apôtre Paul dit à ces deux dames, « Soyez d'accord entre vous, arrêtez pour si peu, ayez une même pensée, soyez unis, accordez vos violons, accordez vos instruments. » D'ailleurs, en plus de la joie, on voit vraiment que le thème de l'unité traverse vraiment toute cette lettre aux Philippiens. Il est vraiment important que l'Église soit unie. Que l'Église soit unie autour du Seigneur Jésus, bien sûr, mais aussi autour de ses responsables. Parce que sans unité, on ne sait pas aller très loin. Et en tout cas, ici, j'aimerais simplement dire que c'est vrai pour l'Église. Mais c'est vrai dans tous les autres domaines. C'est vrai dans le couple. C'est vrai dans la famille. S'il n'y a pas d'unité, ce sera difficile d'aller loin. Et en tout cas, ici, l'apôtre Paul demande au verset 3 qu'on puisse aider ces deux dames. Pourquoi ? Parce qu'elles ont combattu avec moi, dit Paul, pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Eh oui, il y a des noms qui sont écrits dans le livre de vie. La Bible dit qu'il y a un livre de vie dans le ciel. Et ce livre de vie, c'est le livre de vie de l'agneau, de Jésus. Et dans ce livre sont écrits les noms de ceux que Dieu a choisis depuis la fondation du monde. Et quand ceux-là acceptent le pardon et la grâce en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il est dit que leurs noms sont inscrits ou quelque part confirmés dans ce livre-là. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, alors ton nom est confirmé dans ce livre de vie qui est dans le ciel. Et la question qu'on peut déjà se poser ici, mais c'est que mon frère, ma sœur, qu'en est-il de toi? Est-ce que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur? Est-ce que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur? Parce qu'en fait, si ce n'est pas le cas, tu ne pourras pas avoir la joie. Cette joie qui découle en tout cas de celle que le Saint-Esprit donne. Et en fait, cette inscription, ce fait qu'on soit connu de Dieu, c'est l'objet de la plus grande joie qui puisse arriver à un homme. Rappelez-vous peut-être que quand Jésus avait envoyé ses disciples, ils sont revenus, ils étaient vraiment joyeux de ce qu'ils avaient chassé les démons leur étaient soumis, ils avaient fait plein de choses. Et Jésus leur dit, réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous de ce que vous êtes connus de Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux. Jésus dit, Paul dit ici, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pas seulement une seule fois, mais constamment, toujours. Et ce qui est frappant en fait, c'est que quand l'apôtre Paul écrit cela, est-ce que vous savez où il est, où il se trouve? Il est en prison. On ne sait pas depuis combien de temps. Et n'empêche, il écrit et ordonne et recommande à ses frères et sœurs d'être dans la joie, de se réjouir. Pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? Eh bien, c'est parce qu'en fait, la joie que lui a, que lui éprouve, ne dépend pas des circonstances, du fait qu'il soit en prison ou pas en prison. Cette joie-là, il la reçoit de Dieu, de Jésus lui-même. Le Saint-Esprit la lui communique. Et quelles que soient les circonstances, il est dans la joie. On peut être joyeux, on peut rester joyeux malgré les circonstances. Notez simplement en fait que la réjouissance dont il est question ici, quand l'apôtre Paul dit « réjouissez-vous », cela se passe dans le Seigneur. Il dit « réjouissez-vous, toujours, réjouissez-vous, toujours, dans le Seigneur ». Nos circonstances, quelque part, ne nous donnent pas toujours la joie, ça il faut le dire. Parfois, on est contrarié. Certaines personnes autour de nous mangent notre joie. Ça peut arriver de tour à tour que votre conjoint, nos enfants, nos maris, qu'ils mangent notre joie. Mais, dans le Seigneur, on peut toujours se réjouir. On peut toujours se réjouir. Et une fois qu'on se réjouit en lui d'ailleurs, sa joie transforme ces circonstances que l'on a autour de nous. Notez aussi bien en fait que la joie, ce n'est pas la même chose que le bonheur. Le bonheur, en fait, est basé sur les circonstances. Le compte en banque, les circonstances comme le début du mois, ainsi de suite. Oui, ça procure du bonheur. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle, en fait. Oui, en fait, beaucoup de personnes, en tout cas, elles sont heureuses lorsque tout va bien. Et quand ça ne va pas, ben, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur. La joie dont Paul parle ici, en fait, c'est une joie qui dépasse les circonstances. Elle fait, par exemple, elle fait notamment qu'on décolle les yeux des circonstances qui nous entourent pour les fixer sur le Seigneur, l'objet, le sujet de notre joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on peut se réjouir dans le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on peut vraiment regarder le Seigneur et se réjouir, même si on est en prison, même si c'est dur? Pourquoi est-ce qu'on peut vraiment le faire? Parce qu'en fait, l'apôtre Paul, notamment ici, est conscient que Dieu est celui qui contrôle tout. Il contrôle tout. Il l'a racheté. Il nous a racheté. Il a racheté ma petite vie par son sang précieux. Et voilà pourquoi, en fait, je peux être joyeux. Est-ce que tu es convaincu, mon frère, ma sœur, que Dieu contrôle tout, toutes les circonstances, peut-être celles qui te sont pénibles en ce moment, Dieu les contrôle. Dieu les a entre ses mains. Et voilà parfois on est inconséquent. On dit, mais Seigneur, je sais que tu peux me tirer de situation, je sais tout ça, je te remercie parce que tu as sauvé mon âme. Mais dès qu'il y a une épreuve, on est tout déconfit, on s'inquiète. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment vais-je faire pour joindre les deux bouts? Est-ce que c'est trop difficile, quand on y pense un peu, est-ce que c'est trop difficile pour le Seigneur de nous sortir de situation? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Comme il est, je crois que c'est Rose qui priait tout à l'heure, lui qui a tout donné pour que nous puissions être sauvés, pour que notre péché soit balayé, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc, première recommandation, être certain que nous le connaissons. Être certain que nous sommes dans ses mains souveraines. Deuxième recommandation, l'apôtre Paul dit au verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et ce mot douceur ici est un peu difficile à traduire. On peut le traduire par bienveillance, par bonté, par le fait d'être raisonnable. Et en langage contemporain, on pourrait dire en fait qu'il s'agit quelque part ici d'être relax. La douceur, c'est l'inverse de l'agressivité. C'est l'inverse de l'agressivité. En tout cas, un homme, une femme agressive, est un homme quelque part qui n'est pas en paix. La question peut être de savoir, est-ce que tu es agressif? Est-ce que tu es agressif? Est-ce que tu es douce? Peut-être que tu peux te dire, mais ouais, mais vraiment, la douceur, c'est vraiment pas mon champ de bataille, c'est vraiment pas ma personnalité. Ben, on s'en fiche de notre personnalité. Ce qu'on nous demande, c'est est-ce que je développe ces qualités de douceur que Jésus me demande? Dieu nous recommande, ici en tout cas ici, que notre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur implique du respect et non de la mollesse. Il y a un équilibre vraiment à trouver entre douceur et mollesse. Rappelez-vous simplement que Jésus, qui est doux, le doux par excellence, ben il a fait un fouet et il a chassé les vendeurs du temple, pas en les caressant. Hein. Et c'était Jésus qui était doux. En tout cas, nous avons à être doux en étant fermes, en étant en paix les uns avec les autres, comme l'apôtre Paul dit en Romains 12, au verset 18. Il dit, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et j'aime vraiment beaucoup ce côté réaliste de la parole de Dieu. Ah oui, ça ne dépend pas tout le temps de nous, en fait. On a beau vouloir la paix, mais si le voisin ou... nous lance tout le temps des filles ou je sais pas quoi. Heureusement, c'est pas, on est vraiment dans un coin à Anderlu qui est magnifique avec des excellents voisins. On est vraiment bénis de ce côté-là. Mais en tout cas, parfois, ça dépend pas de nous. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est de faire notre part. Et peut-être, en fait, là que il faut parfois se remettre un petit peu en cause. Peut-être que j'ai été peut-être trop dur ce matin avec quelqu'un. Peut-être avec ma femme. Peut-être mes enfants. Et dans ce cas, il nous faut simplement aller demander pardon et non pas rester dur de cœur. Et puis, pourquoi devons-nous vivre vraiment relax? L'apôtre Paul nous montre en fait que parce que notre Dieu est proche. Il est là, il nous soutient, il est présent, il est juste à côté. Et justement donc, troisième recommandation, ne vous inquiétez de rien. Ça c'est le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, rien. Ça c'est sans doute là une des premières clés pour vaincre, me semble-t-il, la dépression. Ce que Paul est en train de dire en fait, c'est que je ne dois pas utiliser mon problème, utiliser l'inquiétude pour régler une situation. Parfois, il y a un problème, alors qu'est-ce qu'on fait? On s'agite, on va à droite, à gauche, on s'agite. En fait, ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu 6, « Qui de vous peut ajouter une seule coude et un seul centimètre à la durée de sa vie avec l'inquiétude ?» Alors, si ça ne sert à rien, pourquoi donc s'égosiller tant? Et Paul ne s'arrête pas là. Paul dit en fait, ne pas s'inquiéter certes, mais en toute occasion, faites connaître à Dieu vos demandes, et dans ce cas, la paix de Dieu couvrira votre cœur. Alors, il y a ce béaba, cet élément vraiment, de base, contre l'inquiétude. Et la déprime, c'est ce qu'on appelle le journal spirituel. C'est tout simple, en fait, le cahier spirituel. Il s'agit de prendre, en fait, un cahier, ou alors des feuilles A4, ou alors d'ouvrir, je ne sais pas, un fichier Word ou Excel, en tout cas avec au moins deux colonnes. Dans une colonne, les sujets de prière. Dans l'autre colonne, les réponses, les exaucements. Et en fait, vous voyez, quand on prend ces sujets de prière le matin et qu'on les dépose ainsi devant Dieu, ça fait un bien fou parce qu'on se décharge, comme l'apôtre Pierre nous demande en 1 Pierre 5. Parce que si on ne fait pas ça, on sort le matin avec ses soucis, ils nous écrasent et on est lourd. Mais combien ça fait du bien de se décharger de ses soucis comme l'apôtre Pierre donc nous demande, hein, 1 Pierre 5 au verset 7. « Déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et Paul dit aussi, en fait, avec des actions de grâce, c'est-à-dire en disant merci. Nous avons passé un moment à prier, tu as passé un moment à prier pour tel sujet, mais Dieu répond, prends un moment pour dire merci. Quatrième recommandation, c'est éviter ce qui est négatif. On le voit au verset 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Et ici aussi, c'est une autre clé vraiment pour vaincre la dépression. Au lieu de ressasser le négatif, il s'agit ici de, au contraire, nourrir nos pensées par ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, dit l'apôtre Paul au verset 8. Et puis, quel est le résultat de tout cela? Et le texte nous dit, à partir du verset 7, le texte dit, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Christ Jésus. » Donc, d'abord, premièrement, être certain d'avoir la vie éternelle. Deuxièmement, être relax. Troisièmement, ne pas s'inquiéter. Quatrièmement, éviter ce qui est négatif. Et il faut dire en fait que derrière ces quatre recommandations, il y a un principe de vie, il y a tout un principe de vie qui est là derrière. Et ce principe de vie, c'est d'être content de sa condition. J'ai pas tenu à voir si Olivier suit, mais je pense que c'est qui le fait. Un grand merci. En tout cas, ici, donc, un principe de vie, être content de sa condition. Et je serai vraiment assez bref plutôt dans cette partie-ci. Parce que, oui, en fait, Philippiens est une lettre de remerciement. Parce que les Philippiens avaient fait un don à l'apôtre Paul pour l'aider dans son ministère. Mais l'apôtre Paul, quand il écrit tout ceci, il ne dit pas, il ne fait pas cela pour que les Philippiens puissent encore faire plus. Non, pas du tout. Il dit, au relais au verset 11, il dit, « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et ici, il y a vraiment un principe de vie. Il y a un principe de vie. Le principe de vie, c'est quoi? C'est lequel? C'est celui d'être content de ce que l'on a, de sa condition. Et ça vaut encore dans plusieurs domaines. Et il faut dire en fait que si vous n'êtes pas content partout, vous ne serez content nulle part. Si tu n'es pas content avec peu, tu ne seras pas content, même si l'église était remplie de, je ne sais pas, de jouets pour les enfants, par exemple. Si l'apôtre Paul a pu dire, en tout cas, ce qu'on a lu, c'est parce que sa vie était remplie. Remplie de quoi ? Remplie de l'essentiel. Remplie du Christ Jésus. La vraie joie, la vraie satisfaction ne se trouve qu'en Jésus seul. Elle ne se trouve qu'en Jésus seul. Tout le reste, c'est comme si on cherchait à puiser de l'eau avec une passoire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Ou allez, soyons un peu plus raisonnables. Puiser de l'eau avec un récipient troué. Ça tient un peu plus longtemps, allez. Mais au final, c'est le même. Et Dieu nous dit en tout cas, Jésus nous veut que nous puissions venir tirer, puiser notre joie, notre bonheur en lui, parce qu'il est l'essentiel. Paul dit, au verset 13 notamment, que Christ est sa joie, Christ peut le fortifier. Et vous voyez, en fait, parfois nous pensons que c'est lorsque j'aurai terminé ma maison, par exemple, que ma joie sera complète. Faux, faux. Si tu n'es pas content quand ta maison n'est pas terminée, tu ne le seras pas, même quand elle sera terminée, c'est sûr. Ou encore, parfois on dit en fait, on pense que c'est lorsque je ferai ma nouvelle voiture, full électrique, c'est au moins l'heure des électriques, que c'est à ce moment-là qu'enfin je pourrai aller au travail tranquillement, relax, tout paisible. Mais non, faux, faux. Si tu n'es pas content dans ta vieille Opel, dans ta vieille voiture, tu ne seras même pas content lorsque tu auras une voiture full option et tout compris. C'est maintenant que nous pouvons être contents si Christ est au centre de notre vie. En tout cas, avec ou sans maison terminée, avec ou sans nouvelle voiture, notre joie peut être complète dès maintenant. Ma joie peut être complète aujourd'hui, si et seulement si Christ est le centre de ma vie. Et bien sûr, cela nous interpelle simplement. Christ est-il le centre de ta vie, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu as fait cette rencontre avec Jésus ? Est-ce que tu te réjouis en lui ? Et si tu l'as rencontré justement, est-ce que tu cherches en lui principalement, et pas ailleurs, ta source de joie ? En tout cas, vraiment, ma prière est que nous puissions vivre centrés sur Christ, à commencer bien sûr par connaître ce Christ-là, et que nous puissions justement rayonner de sa joie pour notre bonheur et aussi pour sa gloire. Amen. Prions ensemble encore. Seigneur Jésus, merci pour ces moments que tu nous as donnés de passer. Merci pour ta parole qui est tellement riche. Merci pour la joie que tu veux dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre couple, dans nos familles, dans nos travails. Et Seigneur, tu vois la réalité. Tu vois ce que nous vivons peut-être. Nous ne voulons pas désespérer, parce que nous savons que tu peux tout. Tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu nous ordonnes, que tu nous demandes, que tu veux nous voir joyeux, tu veux nous voir heureux. Alors, Seigneur Jésus, fais-le, s'il te plaît. Extirpe ces obstacles qui nous volent notre joie. Donne-nous de pouvoir nous en détourner sciemment et que nous puissions faire de Jésus l'objet de notre bonheur. Et que quand il y a un péché, que nous puissions le confesser de manière à ce que le Saint-Esprit puisse nous connecter toujours à Jésus et nous donner cette joie qu'il veut nous laisser, et cela constamment. Merci parce que tu désires le faire. Et nous voulons te dire, nous voulons aussi que tu le fasses dans notre cœur. Fais-le, s'il te plaît, pour la gloire de Jésus et aussi pour notre joie, parce que quand nous sommes joyeux, quand nous sommes heureux, toi tu es content. Alors, fais de manière à ce que nous soyons contents et que toi aussi tu sois content. Amen.